Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afrique Contre-Attaque pour une nouvelle interlude qui est un format au fait qui précède souvent certains épisodes où nous profitons pour apporter certains éclaircissements par rapport aux épisodes officiels que nous lançons. Nous aimerions déjà souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rejoignent, à ceux qui découvrent le podcast. En ce moment, nous sommes en train d'explorer la vie et le pouvoir de la reine Karama, que beaucoup connaissent sous le nom d'Hatshepsut. Nous voulons donc ici explorer, étudier les différentes stratégies africaines de guerre qui ont été employées et qui peuvent être aussi utilisées dans le jeu social, dans la vie quotidienne. L'Afrique se doit de s'armer de science jusqu'aux dents, jusqu'aux cheveux, je dirais même, s'il faut nous inspirer de la citation de Cheikh Anta Diop. Et c'est cet objectif que nous avons, donc d'explorer le passé africain, son histoire, et de pouvoir aussi avoir une lecture sur l'actualité du moment, tout en extirpant des préceptes de vie, des principes qui nous aideront à avoir du succès, à avoir un mental beaucoup plus défini. Car il faut se dire, nous sommes dans un environnement où la plupart d'entre nous sommes aliénés, et il est important de pouvoir avoir une hygiène de l'esprit par des préceptes qui nous amènent un peu plus vers la lumière. Reine Karama, nous en parlions et nous voulions apporter un petit correctif par rapport à ce que nous avions dit. Nous disions dans l'épisode précédent que lorsque le père d'Hatshepsut, Karama donc, est mort, eh bien, il a fallu trouver un successeur au trône. Eh bien, le successeur était tout simplement Thoutmôsis II, car le papa de Hatshepsut, de la reine Karama, était Thoutmôsis I. Et son fils donc a pris le pouvoir, Thoutmôsis II, qui a épousé Hatshepsut, la reine Karama. Alors, plus tard, Thoutmôsis II, donc, mourra et ensuite, Hatshepsut prendra le pouvoir. Le fils de Thoutmôsis II, si vous me suivez toujours, était Thoutmôsis III, le fameux guerrier. Il était beaucoup trop jeune pour prendre le pouvoir. C'est alors que la reine Karama, Hatshepsut donc, prendra le pouvoir à sa place car le jeune bambin était encore beaucoup trop jeune, évidemment. Donc, pour récapituler, nous avons le père qui est Thoutmôsis I. Le père de Hatshepsut ou Karama est Thoutmôsis I. Lorsqu'il meurt, c'est son fils qui prend le pouvoir, Thoutmôsis II. Et lorsque son fils qui meurt aussi tôt, lorsque Thoutmôsis II meurt tôt, eh bien, c'est Hatshepsut qui prend le pouvoir car le fils de Thoutmôsis II, qui est Thoutmôsis III, était beaucoup trop jeune pour prendre le pouvoir. Donc on a Thoutmôsis I, Thoutmôsis II et Thoutmôsis III. Thoutmôsis I, le père. Thoutmôsis II, le fils qui épouse Karama. Thoutmôsis III n'est pas leur fils direct. Thoutmôsis III est le fils de Thoutmôsis II avec une autre reine royale, car les pharaons avaient plusieurs femmes royales. Donc ce fils étant trop jeune pour régner, eh bien, c'est Karama qui prend le pouvoir à sa place. Le père donc de Karama, Thoutmôsis Ier, avait, comme nous l'avons dit, éduqué sa fille dans les arcanes du pouvoir, sachant que évidemment Thoutmôsis II allait prendre le pouvoir après Thoutmôsis I, mais son père, nous en sommes sûrs, voyait en sa fille les potentiels d'une dirigeante, car elle n'a pas pris le pouvoir, elle n'a pas improvisé. Cette prise de pouvoir est assumée, préparée même. Et lorsque Thoutmôsis II meurt, eh bien, il est facile pour Hatshepsut de prendre le pouvoir. Karama ainsi doit prendre le pouvoir après avoir vécu le deuil de son père, de son époux, mais elle arrive à se remettre de ces deux tragédies et à prendre le pouvoir pour diriger l'Égypte et faire honneur à son père, à son mari et à sa vision qu'elle avait pour ce beau et grand pays. Première information que nous voulions rajouter. Deuxième est celle sur l'excision. L'excision est un domaine assez vaste et voire même obscur, très compliqué à trouver les origines. Il est certain que certaines sources nous disent que l'excision était connue dans les territoires africains. Par exemple, au niveau des rituels, jusqu'à présent, dans les sociétés secrètes africaines féminines, on retrouve le rituel de la circoncision. Et cela même a pu être aussi utile pour rituels, par exemple, de femmes guerrières, où l'excision pouvait peut-être être utilisée au cas où des femmes devaient être assignées à des tâches bien spécifiques. Donc, on le retrouve même maintenant encore, et c'est un sujet encore tabou ou encore sur lequel beaucoup de femmes combattent. Dans beaucoup de sociétés secrètes, il y a africaines, il y a encore l'excision qui est pratiquée, ce qui fait que beaucoup même iraient à remonter jusque dans la vallée du Nil, jusqu'en Égypte, à Kemet, à la Tamérie, pour dire que c'était déjà des pratiques ancestrales africaines et qui sont qui perdurent jusqu'à présent. Chose qui est difficilement aussi prouvable ou prouvée. Et nous allons donner des sources ici. Mais comme nous l'avons dit, il y a dans certains cas de sociétés très très loin en Afrique où ça peut être utilisé pour des femmes qui devaient être assignées à des tâches certainement spéciales, peut-être comme des tâches militaires. Les femmes de militaires de Béanza étaient-elles excisées? Point d'interrogation, il faudrait explorer. Donc le fait qu'on retrouve ces pratiques dans les anciennes sociétés africaines, ce qui veut dire qu'il y a peut-être un certain groupe de personnes qui étaient assignées à cela. Mais on ne peut pas étaler ça à toutes les femmes africaines, toutes étaient excisées. Non, ce n'est pas la même façon que... ce n'est pas la même vue que la circoncision. Les hommes, oui, étaient tous circoncis, mais dire que l'excision était pour toutes les femmes, non, ça, ce n'est pas prouvé. Une certaine catégorie peut-être était dans ce cas, mais pas toutes. Alors, nous allons voir ici un extrait d'un livre écrit par un auteur dont je vous passe le titre. Alors, l'auteur, c'est « Être un enfant en Égypte ancienne ». Et le livre est écrit par Amandine Marshall. Que nous dit ce livre sur l'excision? Donc, écrit par Amandine Marshall, être un enfant en Égypte. Alors, il nous est dit ceci. L'excision. Si l'acte de circoncision rituelle du sexe masculin est établi sur le sol égyptien dès la période prédynastique, elle donne une référence par rapport à ça. En revanche, la pratique de l'excision n'est attestée ni dans les textes ni dans l'iconographie égyptienne, ni même sur la moindre momie de femme avant la période grecque. L'un des plus anciens témoignages de cette pratique se rencontre sur un papyrus daté d'environ 163 avant notre ère, dans lequel il est fait mention de la fille d'un certain Néphoris, lequel, ayant atteint l'âge du mariage, devait être excisé. Il y a une référence qui est donnée ici. D'après Strabon, l'excision était largement répandue à son époque. Je m'arrête ici avant de continuer. Quand elle dit que l'un des plus anciens témoignages de cette pratique, donc de l'excision, se rencontre sur un papyrus daté d'environ 163 avant Jésus-Christ. Il faut se dire que cette date, c'est l'Égypte tardive. C'est l'Égypte tardive. C'est-à-dire qu'on se rapproche de l'an 0. Donc 163, on est pratiquement à l'invasion grecque de l'Égypte ancienne. C'est les Grecs qui sont là. Voilà pourquoi vous verrez qu'on mentionne le nom d'une personne avec une prononciation grecque, Néphoris, même si, bon, oui, les Aménophis aussi, c'est grec, mais c'est après qu'on a changé ces choses-là. Donc, 163 avant notre ère, donc avant l'ère chrétienne, c'est très tard, c'est l'histoire très... Donc, c'est là où c'est après que les Égyptiens aient été envahis par plusieurs peuples et civilisations, où d'autres cultures ont été apportées. Donc, 163, c'est très, très, très tard, alors que l'histoire égyptienne, elle commence vers les moins 4000 ou les moins 5000. Donc quand vous voyez de moins 5000 et vous descendez jusqu'à 63, vous voyez un peu l'écart. Donc ici on est à une époque où l'Égypte a été envahie par plusieurs autres civilisations et d'autres cultures ont déjà été apportées. Donc ce n'est pas du tout la pure pensée africaine à ce moment-là. Voilà pourquoi donc nous avons ce qui suit. Alors, d'après Strabon, l'excision était largement répandue à son époque, et Strabon est un grec. Donc c'est à un moment de l'Égypte où les Grecs ont envahi. Donc, il y a une autre culture qui est injectée là. Et voilà pourquoi on peut maintenant être témoin d'une mutation de culture, de comportement. Et voilà pourquoi nous allons voir ce que Strabon va décrire maintenant, ce qui est un apport d'autres civilisations en Égypte. Alors, Strabon dit ceci. Un autre usage spécial aux Égyptiens, et l'un de ceux auxquels ils tiennent le plus, consiste à élever scrupuleusement tous les enfants qui leur naissent et à pratiquer la circoncision sur les garçons et l'excision sur les filles. Il y a une référence qui est donnée. Donc, je répète que cette observation de Strabon n'est le fait que de l'injection de plusieurs populations qui sont venues s'établir en Égypte et apporter d'autres cultures. Alors, nous continuons. Mais il convient toujours de prendre les généralités édictées par les auteurs classiques avec beaucoup de prudence. Ça, c'est l'auteur qui parle. Contrairement à ce qui peut parfois être évoqué, l'excision n'a jamais constitué sur le sol égyptien le pendant féminin de la circoncision. Je répète, contrairement à ce qui peut parfois être évoquée, l'excision n'a jamais constitué sur le sol égyptien le pendant féminin de la circoncision, même s'il est évident qu'elle était l'un des possibles rites de passage de l'existence des Égyptiennes. Si elle a pu être réalisée au même âge que la circoncision pour les garçons, il y a une référence qui est donnée, aux époques tardives, les témoignages l'évoquant tendent à suggérer une pratique rituelle réalisée juste avant les noces. Le médecin grec Aétios d'Amida, qui vécut au 6e siècle, décrit la clitoridectomie telle qu'elle est pratiquée en Égypte à son époque et explique la nécessité de cette mutilation par le fait que la friction du clitoris avec les vêtements excitait les filles. Vraiment. 300, on donne aussi une référence ici. Donc, vous voyez un peu les mentalités que certaines personnes avaient. Elle n'avait d'autre but que l'excision pratiquée de nos jours. Je répète, elle n'avait d'autre but que l'excision pratiquée de nos jours. Par l'ablation partielle ou totale du clitoris et éventuellement des petites et grandes lèvres, l'homme souhaite ôter à la femme tout plaisir dans les rapports sexuels et par ce biais lui ôter toute envie d'être infidèle à son époux. L'objectif de cette mutilation n'avait donc rien à voir avec un possible souci hygiénique évoqué par Hérodote à propos de la circoncision. Il y a une source qui est donnée. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que la pratique de l'excision sous les Ptolémées, sous l'Égypte, dominée par les Grecs. Donc, la culture a déjà été chamboulée. Donc, des autres pratiques ont déjà été amenées. Lorsqu'on circoncie les femmes à cette époque-là, ou les jeunes filles, pour avant le mariage, eh bien, c'est tout simplement une culture qui a été apportée. Ce n'est pas dans les fondements même de la civilisation africaine égyptienne. C'est quelque chose qui a été apporté, qui a été injecté sous les Grecs ou un peu avant eux. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient typiquement des ressources africaines. Il n'y a pas de mythe par rapport à ça. Vous voyez, pour comprendre quelque chose, on doit passer au mythe. Il n'y a pas de mythe par rapport à ça dans les textes égyptiens. Alors ça continue en disant, dans l'Égypte actuelle, l'excision, bon là, évidemment le livre va pour explorer autre chose. Donc je disais que la source que nous donnons ici, c'est Être un enfant en Égypte ancienne. Et le bouquin est écrit par Amandine Marshall. Donc ça, c'était un point à apporter par rapport à l'excision pour dire que ça ne vient pas d'Afrique. Comme j'avais donné notre source la fois passée sur Christelle Desroches Noblecourt, qui avait écrit un livre là-dessus aussi et un témoignage de Platon que j'avais partagé par rapport à l'excision. Donc nous disons donc que lorsque Hatshepsut donc ou Kamara s'est fait initier, nous ne pensons pas donc qu'elle a eu à passer par ce rite-là. Même si aujourd'hui dans certaines sociétés traditionnelles africaines, on retrouve beaucoup ce rite et beaucoup vont peut-être monter très loin en disant que voilà, c'est traditionnel, c'est dans notre culture, c'est ce qui a été fait, mais on se rend compte qu'il y a eu des injections et que certaines pratiques que nous avons aussi sont des pratiques qui ont été empruntées d'autres peuples, d'autres populations après que quand les migrations se sont faites, et bien certains ont apporté ces cultures-là qui avaient déjà changé au sein de leur groupe ethnique, groupe social. Donc, l'excision, oui, a pu être utilisé et déjà utilisé, même et déjà pratiqué abondamment en Afrique, et beaucoup combattent ce phénomène-là. Beaucoup vont défendre que c'est traditionnel, que c'est rituel, que ça remonte à l'Égypte, mais on voit que les textes ici refutent en majorité ces choses. J'ai donné d'autres références dans l'épisode précédent, mais il est à noter que en Afrique ancienne, ça se pouvait, que ça pouvait être appliqué, surtout au sein de certains groupes de femmes spéciaux, peut-être d'élite, peut-être des femmes combattantes, des femmes guerrières, peut-être au sein d'une certaine élite secrète, il se pouvait que cette pratique pouvait être faite, mais en tout cas dans le grand plan égyptien, dans la grande famille égyptienne, dans la grande culture égyptienne, ce phénomène n'est pas utilisé. Donc vouloir le placer dans la culture africaine, c'est assez compliqué ou difficile. Mais comme nous l'avons dit, cela peut exister au sein de certains groupes de femmes. Cela peut exister car voilà, on le retrouve même ici, même dans nos cultures traditionnelles. Maintenant, dans certains rites, ces choses sont toujours utilisées. Donc, c'est ce que sont ces deux points sur lesquels nous voulions insister aujourd'hui sur la famille de Hatshepsut, la reine Karama, sur son père. Nous venons de dire que après la mort de son père, c'est son fils qui a succédé à lui. Et ensuite, son fils, qui était Thoutmôsis II, a épousé Karama Hatshepsut. Donc, il était carrément, on peut le dire, frère et sœur, même père, même mère, on ne sait pas tout très exactement. Mais voilà, ce sont des choses qui peuvent se passer parfois dans les rituels, dans la famille, dans les cercles égyptiens. Pas dans la population, comme nous l'avons dit dans l'émission passée, mais au niveau égyptien, ça pouvait se faire pour maintenir le pouvoir familial, les gens, c'est-à-dire leurs cousins, leurs cousines. Vous voyez même que dans l'ancien temps, ça se faisait beaucoup, même dans les textes. On dit, par exemple, je crois, Abraham a épousé sa cousine et il disait que c'était sa sœur. Donc, vous voyez que dans l'époque ancienne, c'était des choses comme ça qui se pratiquaient. Et ensuite, nous avons aussi dit que lorsque son père est mort, eh bien, ça a été difficile pour elle à assumer. Et son frère a pris le pouvoir et ensuite son frère aussi est mort, c'est de manière précoce. C'est comme l'enfant de Thoutmôsis II, à savoir Thoutmôsis III était trop jeune parce que cet enfant-là n'est pas l'enfant d'Hatshepsut, c'est l'enfant que Thoutmôsis II a eu avec une autre reine royale. Et lorsque Thoutmôsis II donc meurt, son mari, le mari de Karama, eh bien, c'est elle, Karama, qui prend le pouvoir parce que Thoutmôsis III était beaucoup trop jeune pour prendre ce pouvoir. Et ensuite, on a parlé aussi de l'excision par rapport aux sociétés traditionnelles africaines, afin de s'interroger si peut-être Hatshepsut était passé par ce rite-là. Nous pensons que ce serait difficile car on ne voit pas de momie excisée, comme on l'a dit la fois passée. Et ici, on voit aussi que par rapport au témoignage qu'on nous donne par Madame Marshall, eh bien, on se rend compte que c'est difficilement soutenable. Mais, comme nous l'avons dit, cela est probable et c'est possible. C'est possible que certaines castes ou certains groupements de femmes aient eu à passer par l'excision, peut-être en Afrique, ou est-ce que c'est introduit, surtout quand les Hyksos sont arrivés, peut-être qu'après, il y a eu des femmes par exemple des femmes militaires qui auraient pu peut-être être excisées. Je ne sais pas si Béanzin, peut-être, on doit faire des recherches là-dessus, mais il y avait peut-être des castes de femmes, on ne sait pas, peut-être avec les Kandaka d'Éthiopie, ou quand il y avait des reines guerrières, tout ça, ou peut-être des contingents de femmes guerrières, il faut voir ces choses-là. Donc, c'est ce que nous voulons rajouter pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous vous prions de partager l'émission. Si vous aimez beaucoup ce podcast, partagez dans les réseaux sociaux. Les likes, c'est bien. Le partage, c'est encore beaucoup mieux. Nous voulons vraiment que cela puisse être connu. Si vous voulez qu'il y ait plus d'épisodes, partagez auprès de vos proches. Envoyez-nous des messages. Dites-nous ce que vous voulez que nous puissions couvrir. Quelle biographie, quelle partie de l'histoire africaine vous voulez découvrir, spécialement de l'Égypte. Et au-delà, évidemment, on ne va pas se contenter à rester en Égypte. L'histoire africaine noire est très très riche et nous allons développer ces choses en aussi poussant les principes de stratégie, les principes de succès, le principe de développement personnel qui conduisent ou qui sont soutenus par les succès des rois et des reines africains, de tout cela, même de nobles origines, mais qui ont pu faire pousser leur civilisation vers le paroxysme. Merci beaucoup, vie, durée et santé. Bye bye.